va notre démocratie ?
Eh bien, notre démocratie est jugée défaillante selon l'évaluation faite par le groupe de presse britannique The Economist qui se penche chaque année sur ce sujet. Sur 165 pays étudiés, vous le voyez, la Belgique se classe 36e juste après la Grèce et la Slovénie et juste avant Chypre et la Lettonie.
Alors oui, ça c'est pas terrible, terrible. Moi ça m'amène à une question, nos voisins, ils font mieux ?
Eh bien non. Les voisins font beaucoup mieux que la Belgique. Les Pays-Bas, vous le voyez, sont 11e, le Luxembourg est 14e, la France est 22e, la France qui est aussi considérée comme une démocratie défaillante. Et ce qui permet d'expliquer cette qualification, ce sont, selon ce journal, les mesures prises par durant le Covid-19, les mesures comme le pass sanitaire, et donc ça pose forcément la question des libertés individuelles, Sacha.
Ouais, et ça, on l'évoquera évidemment cette crinée, on y reviendra, vous avez des choses à dire sur les soins de santé. Quand on a préparé cette émission et qu'on a commencé, vous nous avez dit « il faut des nouvelles têtes en politique, c'est fondamental ». Pourquoi ? Toujours les mêmes, c'est contraire au principe de la démocratie ?
Oui. Quand ils sont toujours au même poste, toujours à des postes clés, ça ne peut pas permettre une nouvelle impulsion. En Belgique, on a besoin de réformes, de structurelles, de réformes structurelles. Et avec toujours les mêmes hommes au même poste...
Oui, mais s'ils sont élus, c'est ça la démocratie ?
Oui, mais... Si vous êtes parlementaire, j'ai aucun problème avec ça. Si vous êtes élu, vous remettez face au jugement des citoyens, j'ai aucun problème. Quand vous êtes toujours au même poste, toujours avec les mêmes compétences, vous n'avez pas le recul nécessaire. Je veux dire, on est dans une situation en Belgique où le service public ne marche pas bien. La santé, ça va pas. Les transports, ça va pas. On l'a vu avec...
Sinon, c'est déjà foutu, générique de fin, au revoir et merci.
On l'a vu avec le judiciaire, ça va pas non plus. Et donc... Il y a un moment, il faut quand même se poser la question. Oui. Et en Belgique, on n'a pas d'impulsion politique, on n'a pas de nouveau parti, on n'a pas de nouveau... Un renouvellement. Et...
Ce renouvellement crée parfois des inégalités, ce manque de renouvellement entre politique et citoyen. Vous avez un peu l'impression d'un grand écart, Madame Van Dorsmissen. Bonsoir, expliquez-nous pourquoi vous avez l'impression qu'aujourd'hui, politique et citoyen ne sont pas sur un pied d'égalité. Ne serait-ce par exemple en termes de salaire.
Oui, ne fût-ce qu'en termes de salaire. Donc voilà, quand c'était il y a 15 jours, 3 semaines, une de vos journalistes a été interviewée à la sortie de je ne sais plus quelle réunion en disant « voilà, vous gagnez combien ?» Et quand j'entends « je ne sais pas
hey. »,
d'accord.
Ça, pour vous, c'est symbole de l'inégalité qui peut exister entre ceux qui dirigent et ceux
moi,
qui sont dirigés.
Si vous ne savez pas combien vous gagnez, vous ne savez pas combien vous dépensez. Et donc, vous êtes censé gérer notre pays en ne sachant pas combien vous avez et combien on peut dépenser.
Il y a évidemment cette question de communication, Pierre-Yves Derman, qui choque un peu, et on peut le comprendre, mais il y a aussi cette absence de renouvellement en politique. La question n'est pas neuve, mais elle se pose régulièrement et rien ne change. Est-ce que rien ne va jamais changer ?
Bah, si, moi j'espère que les choses peuvent changer, que les choses peuvent s'améliorer, elles doivent s'améliorer. Je pense qu'on doit simplifier le fonctionnement de notre démocratie, simplifier nos institutions. On est un pays complexe, c'est le fruit de notre histoire aussi, hein. C'est le fruit aussi de choix politiques qui ont été posés, qui ont été soutenus par l'électeur à une certaine époque. Et le renouveau, je pense qu'il est aussi important. Moi je plaide pour qu'on ne fasse pas carrière en politique.
Limitation des mandats.
Faire carrière en politique, c'est un engagement, ce n'est pas un métier, ce n'est pas une carrière. J'ai toujours dit aussi, je le répète ici devant Ingrid, devant Vincent, devant vous, que je ne ferai pas toute ma vie en politique. C'est un engagement, ça nécessite beaucoup d'engagement, de disponibilité. C'est aussi pas mal de sacrifices par rapport aux proches et par rapport à la famille. Et je pense qu'il faut effectivement des nouvelles têtes, il faut du renouveau. Moi, j'ai pas encore 42 ans, donc je n'estime pas encore être un vieux de la politique, mais je ne compte pas y rester non plus encore des décennies.
Ça vous convainc, moi ? Ça veut dire quoi ?
C'est-à-dire que j'ai besoin de personnes qui comprennent la vie que nous vivons. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des politiciens qui sont politiciens de carrière, de père en fils. Et ce dont on a besoin, nous, c'est de quelqu'un qui comprenne que quand le litre de carburant passe de 1,50€ à 2€, eh ben pour nous, c'est énorme. Et ça, j'ai l'impression de ne pas toujours le trouver. Je ne jette pas la pierre à tout le monde en disant que personne ne nous comprend, mais... La démocratie, c'est le gouvernement, ce qui est élu par le peuple et pour le peuple. Et aujourd'hui, moi, je vois qu'on a des personnes qui sont élues. Et après, on se dit, quand les élections sont terminées, on tire le rideau, on va se débrouiller entre nous, on ne sait pas ce qui se passe.
Madame Targé, petite réaction par rapport à ça. Est-ce que cette démocratie un peu chancelante, parce que finalement, il n'y a pas grand-chose qui bouge, on vient de le dire avec Madame Béliard, par rapport à Namur, il y a un an, il n'y a rien qui a bougé, les crises n'expliquent pas tout. Ça vous déçoit, cette démocratie ? Vous avez encore confiance en la politique ?
Alors moi, je n'ai plus du tout confiance en la politique. Moi, d'ailleurs, prochaine élection, je ne vais pas voter. Je pense que ça ne sert à rien. Je pense qu'on ne tire jamais les leçons du passé. Ça,
carrément pas y aller.
Non, moi, j'y vais pas. Ça ne sert à rien. Je vais aller faire quoi ? Un vote blanc ? Bah, je vais pas me lever le dimanche pour faire...
Mais vous risquez de favoriser les extrêmes.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je ne veux pas me résoudre à voter pour les extrêmes. Donc, je ne veux pas voter PTB, je ne veux pas voter l'extrême droite. Donc, sur le coup, je préfère zapper. Je suis tellement déçue au fil du temps par tout ce qu'il y a dans les médias, etc. Enfin, la malgérance. Enfin, c'est vraiment une accumulation de tout. Hein. C'est pas une chose. Je discutais avec une petite dame tout à l'heure. Elle dit, je ne veux pas parler de la démocratie parce que je n'y comprends rien.
Ouais. On va venir sur la complexité de nos institutions tout à l'heure, ça c'est promis. François de Smet, on vient d'entendre des gens qui ne se tournent pas vers les extrêmes, mais qui sont à bout là, par rapport justement à ce sentiment d'inégalité, du fait que ça ne sert à rien d'aller voter. Vous allez certainement tenter de les convaincre de faire autre chose.
J'espère convaincre un certain
nombre d'aller
moins
ça.
Voter, quel que soit le parti.
Mais c'est inquiétant, ils sont de plus en plus nombreux à dire « je ne vais pas aller voter ».
Bien sûr, et ça on le ressent dans les sondages. Moi je pense, c'est vrai qu'il y a un souci de déconnexion. Il est très possible que beaucoup d'élus se voient comme une caste qui, une fois qu'elle est élue, n'a pas de compte à rendre et qui se reproduit. Ça, nous, on lutte contre, particulièrement dans notre parti, on essaye, on a une proposition simple, deux même. Le congé politique, c'est déjà possible pour les fonctionnaires, certains journalistes du service public, les enseignants, de prendre un moment un congé politique pour aller faire un ou deux mandats et puis revenir. Nous, on voudrait que ce soit possible pour tous les citoyens, même les indépendants, même les commerciaux, pour que la politique soit de moins en moins un métier, mais une sorte de service. Et on propose aussi une forme de limite des mandats. Deux ou trois mandats maximum. Après ça, vous êtes obligé de faire autre chose que de la politique, quitte après à revenir, pour que vous soyez obligé d'être dans une déconnexion. Évidemment, mais ça, on l'a toujours porté, le décumul. C'est plus possible qu'on soit à la fois parlementaire, échevin, bourgmestre.
Vous allez continuer cette discussion-là, parce que vous viendrez voir.
Oui, dans un État démocratique, tout à fait. On a la liberté de s'exprimer, la chose la plus importante. Une gestion de liberté, on est pas mal.
Surtout en tant que femme, je trouve que c'est important. Pouvoir utiliser un contraceptif, avoir le droit à l'avortement.
Parfois, je trouve qu'on est un peu trop démocratique parce qu'on laisse faire n'importe quoi à n'importe qui et ça, c'est un peu dommage.
Alors oui, je me sens dans un état, enfin dans une démocratie, puisque j'ai le droit de vote, je vais voter, comme j'espère la plupart des citoyens. Maintenant, mon souci, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui bouge.
Que les politiques essayent de mieux se renseigner sur quelle est la vie des gens et qu'ils agissent en fonction de ça et pas seulement de leur programme gouvernemental, de leurs élections et compagnie.
Monde politique pour gérer la Belgique ?
Pour moi, oui. Mmh. On s'est fort éparpillé avec la distribution fédérale, régionale, communale. Ça devient du n'importe quoi.
Un peu perdu.
Un peu perdu, oui, franchement, oui.
Mais ça, c'est pas bon, évidemment, d'être un citoyen perdu dans les méandres des institutions politiques. Maxime Prévost, je vais vous demander peut-être de trahir un secret, ou alors peut-être qu'il n'y a tout simplement pas de secret. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des réunions entre partis francophones ou avec des partis néerlandophones pour simplifier le pays? Moins de politique, moins de députés, moins d'institutions. Ça existe, ça, ou ça n'existe pas?
Ça n'existe pas, et je le regrette. Je le déplore, déjà ne fût-ce qu'à l'échelle francophone. Parce que madame a raison, et je rejoins son constat, il y a aujourd'hui trop de couches de lasagne et trop de mandataires publics. Alors regardez les fameux 9 ministres de la Santé dont on a tant parlé pendant la crise Covid.
On va y venir encore tout à l'heure.
Mais il faut reconnaître une chose, il y en a un au niveau fédéral, un bruxellois, un flamand, et le reste, c'est Wallonie essentiellement. Et donc on doit, ne fût-ce qu'au niveau francophone, se mettre autour de la table.
Vous lancez la réunion ?
Mais j'ai déjà plusieurs fois appelé les présidents des partis francophones. Je leur ai même écrit en disant, écoutez messieurs, on sait qu'on va avoir un rendez-vous en 2024 qui risque à nouveau d'être institutionnel, même si on ne le souhaite pas. On va arrêter d'avoir des francophones qui se présentent juste un genou en terre en
demandant
de l'argent.
Qui a dit oui, qui a dit non à cette réunion ? C'est important ça.
Personne jusqu'à présent
n'a dit oui.
Convoqué de réunion.
Ah, okay.
Traditionnellement, ça revient au premier parti, c'est-à-dire au Parti Socialiste. Mais donc moi, je crois qu'on doit être en capacité de se réformer, sinon on va perdre toute crédibilité même vis-à-vis des Flamands.
Bon.
Vraiment, chez Écolo, ce qu'on défend avec ardeur, c'est si des réformes il y a, il faut qu'elles soient vraiment pour simplifier et clarifier. Parce qu'effectivement, pour le citoyen ou la citoyenne, ça leur fait une belle jambe de savoir que ce soit la commune, la région ou autre qui est responsable. Et donc c'est pour ça qu'on essaye au maximum dans tout ce qu'on entreprend de clarifier et simplifier pour être beaucoup plus lisible.
C'est pour ça qu'on a fait... Le problème, c'est qu'il n'y a rien qui a bougé depuis un an, depuis notre émission.
Entre-temps, il y a eu, on n'a pas tant que ça avancé sur la réforme de l'État et on avait amené des propositions de type, en temps de crise, qu'il y ait un commandement au niveau fédéral qui soit beaucoup plus clair, parce qu'on l'a vu aussi pendant la crise Covid, le fait d'avoir différents capitaines à bord du navire.
C'est pas l'idéal. C'est pas, et ça aussi, idéal, des 9 ministres de la Santé, on va en parler. Je reviens vers vous, je vous laisse compter. Il y a d'élus en Belgique.
Alors, il y a beaucoup d'élus. Il y a plus de 14 500 élus, tout niveau pouvoir confondu. On devrait plutôt parler de postes éligibles, hein, puisque certains cumulent plusieurs fonctions. Ce chiffre a légèrement augmenté, puisque le nombre de conseillers communaux est calculé en fonction de la densité de la population. Et puisque la population augmente, eh bien forcément, le nombre de conseillers communaux suit cette tendance.
On va un petit peu...
Et ceux des trois régions, eh bien, cela fait regarder 463 élus. Mais au niveau fédéral, il faut savoir que le nombre de députés a quand même diminué. Après la Seconde Guerre mondiale, ils étaient 212 à la Chambre. C'était là aussi hein, proportionnel au nombre au niveau de la population. Mais en 1993, ce nombre a été réduit pour être limité à 150 députés fédéraux, comme c'est encore le cas aujourd'hui.
Ah oui, donc là, il y a de plus en plus de gens qui disent « je suis pas écouté » et au final, c'est dangereux pour la démocratie.
Alors oui, les gens disent ça de façon évidente. Alors les gens se sentent de moins en moins écoutés, mais je pense que les gens se sentent de moins en moins écoutés parce qu'ils sont atteints dans des droits de vie quotidienne. Je pense que la population est prête à faire confiance à des élus si en effet il y a du dialogue proche qui conduit à ce que l'exercice des droits dans la vie quotidienne puisse être une réalité. Le droit au logement, le droit à la santé, le droit, enfin tous les droits précieux et importants qui font que la vie quotidienne ne soit plus une inquiétude. Alors l'autre chose qui fait que les gens ne se sentent plus écoutés, c'est qu'il y a un sentiment d'abandon par rapport à ces droits. On a d'ailleurs entendu ce sentiment d'abandon multiplié par les personnes qui ont subi les inondations, hein, qui ont eu l'impression d'être abandonnées depuis le risque de la mort au moment où c'est arrivé, pour certains malheureusement, et puis après, dans la suite, etc. C'est un peu un exemple, c'est un peu un exemple du fait qu'on ne peut pas dire que le politique n'a pas bougé, on ne peut pas dire qu'il n'essaye pas d'analyser, mais à un moment donné, en effet, il y a un schisme dans l'écoute permanente, mais l'écoute permanente, elle doit conduire à des décisions qui ont un impact sur la vie des gens. Et je pense que c'est là que le schisme se dessine, au-delà de tout ce qui a pu être dit, qui peut être fait.
Je reviens vers vous sur différents thèmes très importants de notre côté.
Et essayer de comprendre la démocratie, comment ça fonctionne. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent, qui sont anti-système, parce que justement, ils ne comprennent pas comment fonctionne la démocratie. Donc moi, j'ai vraiment envie qu'on comprenne, que les gens puissent comprendre comment on vote, c'est quoi le Parlement, comment est élu le gouvernement. Voilà, je pense que si on sort dans la rue et qu'on demande à quelqu'un, vous avez voté pour qui aux dernières élections, est-ce que vous savez qu'est-ce qui s'est passé après? Je pense que pas grand monde sait comment ça se passe. Et moi, vraiment, je trouve que c'est super important.
Mais c'est une bonne proposition.
C'est ma position. J'estime que la Belgique n'est pas une démocratie, mais une particratie. Ce sont les partis qui sont princes, qui décident, et souvent même au sein d'un parti, c'est le président qui est seul maître à bord.
Et ça, c'est pas juste? C'est inégal?
Je crois qu'il faudrait laisser davantage la parole aux personnes, aux citoyens. Alors personnellement...
Mais vous préférez que ce soit qui s'exprime, un député élu ou un président finalement, lui aussi élu? Qu'est-ce qui doit le plus décider finalement?
Je pense que les députés pourraient revenir beaucoup plus souvent vers le citoyen pour avoir son avis. Et je voudrais dire en deux mots une chose qui me reste en travers de la gorge depuis 50 ans. C'est que quand on a fait ce que la Belgique est aujourd'hui, hein, cette lasagne communautaire, on n'a pas demandé l'avis du peuple. On nous a engagés...
Dans quelque chose que personne n'avait vraiment demandé.
On a décidé de notre avenir, de l'avenir de la Belgique. On a décidé des moyens que nous fournissons, parce que les impôts, c'est nous qui les payons, et on ne nous a pas demandé notre avis.
Eh bien, on revient tout à l'heure sur la consultation.
Il faut quand même que les partis se structurent pour pouvoir assurer une stabilité gouvernementale. Et donc, moi, je suis tout à fait d'accord qu'il y a un élément de particratie qui doit, par contre, être modifié. C'est sur la composition des listes électorales. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le vote en casse de tête. Donc, quand vous votez pour un parti, c'est selon l'ordre de la liste que vous êtes élu ou pas. Et donc aujourd'hui, en fait, c'est pas les gens qui décident de qui sera député, c'est les partis.
Parce que ministre, c'est pareil.
Parce que, oui, mais député, c'est beaucoup plus grave parce qu'on dit aux gens qui votent. Mais en fait, dans 98% des cas, c'est l'ordre de la liste qui est respecté. Donc le premier sera élu, le deuxième, et le troisième, même s'il fait des voix, il l'est pas nécessairement. Donc ça, il faut changer et supprimer également le système des suppléants. Parce qu'on décide à l'avance, si on nomme quelqu'un ministre, qui va monter comme député. Il faut vraiment que sur la liste, tout le monde ait les mêmes chances de pouvoir être élu.
Eh ben voilà.
On n'a pas à se plaindre en Belgique. J'ai vécu dans d'autres pays, donc je peux vous dire que l'accès aux soins de santé est très bon en Belgique. Maintenant, on manque quand même de médecins.
Il y a des gens qui ne savent pas se soigner.
Comme les personnes âgées avec des petits revenus.
Moi, mon papa a été hospitalisé en Italie. Ben, je peux vous dire qu'on est vraiment bien en Belgique.
Pour ça, je crois qu'en Belgique, quand même, en termes de santé, on est pas mal placé.
Une bonne nouvelle, Sacha, la Belgique est cinquième au classement des pays européens ayant le meilleur système de soins de santé. Dans notre pays, les soins de santé sont considérés d'abord comme accessibles parce que les patients sont rapidement pris en charge par rapport à d'autres pays. Et puis le système belge se distingue notamment par un traitement des cancers qui est, il faut le dire, assez performant.
J'imagine qu'il y a...
En 2021, près d'un Belge sur deux déclare avoir dû reporter un rendez-vous médical dont il avait pourtant besoin.
Au niveau du nombre de médecins...
Environ 13 000 en Belgique, rien qu'en Wallonie, il en manquerait 360. En région bruxelloise, la capitale aurait besoin de 486 médecins d'ici 5 ans, médecins supplémentaires. Et cette pénurie est localisée surtout dans certaines communes à Bruxelles, Anderlecht, Forêt ou encore Laeken, et dans certaines provinces en Wallonie, le Hainaut et le Luxembourg.
Et j'en ai pour 174 euros.
Ça veut dire que vous ne vous sentez pas suffisamment bien protégé financièrement par rapport à ça?
Non, parce que les 174 euros, il faut les avancer. Mais moi, ce que je trouve qui serait vraiment intéressant, c'est d'appliquer le tiers payant pour justement pas que les gens aient ces sommes-là à sortir de leur poche. Parce que 174 euros pour certaines personnes, c'est quasiment, c'est pas mon cas moi spécialement, mais c'est quasiment ce que les gens ont pour faire leurs courses. Donc voilà.
Madame De Vis, je vous propose d'en discuter avec Georges Boucher. Je reviens.
Les problèmes de santé sont tout à fait différents et comme ça a été dit à la table à côté, c'est un problème financier. Et ça va concerner une classe beaucoup plus importante de la population, la classe moyenne en l'occurrence, qui fait des priorisations en termes financiers parce qu'il y a bien sûr l'énergie, il y a aussi l'alimentation et donc on va reporter les soins, mais aussi la prévention et le dépistage à plus tard parce que ce n'est pas une priorité du moment.
En 30 secondes, vous direz qu'aujourd'hui, il y a une petite inégalité qui se creuse entre ceux qui ont les moyens de se soigner et ceux qui n'ont plus les moyens.
Alors bien sûr, il y a une très grande inégalité et je ne suis pas sûr que nos politiques soient conscients de cette vulnérabilité d'une grande partie de la population par rapport à ça. Et le rôle des pouvoirs publics n'est pas de responsabiliser chaque individu par rapport à ça. Le rôle des pouvoirs publics, c'est de donner les moyens pour que chacun puisse faire des choix éclairés et libres. Et là, notre système de santé est un peu défaillant. C'est-à-dire que pour avoir un rendez-vous chez un médecin généraliste, c'est très compliqué. Chez un médecin spécialiste,
il en manque
un
médecin,
ça prend des mois. Pour avoir un rendez-vous chez un dentiste de base dans le sud du pays, ça prend aussi des mois. Et donc, il y a un vrai problème d'accessibilité aussi à des personnels de santé. Combien de personnes veulent avoir un médecin généraliste? Et les médecins généralistes disent non, on ne prend plus personne parce qu'on est saturé. Et donc là, il y a aussi une responsabilité du système de santé que cette accessibilité soit, je dirais, à tous les niveaux.
Santé, je trouve ça déjà tout à fait aberrant parce que nous, en tant que personnes sur le terrain, on ne sait pas vers qui se tourner. Quand vous posez une question, la moitié de la phrase c'est une compétence d'un ministre, l'autre moitié de la phrase c'est l'autre ministre. Et quand vous avez des patients qui viennent vous voir et enfin, qui vous disent c'est pas possible pour moi de payer mes soins de santé, enfin, c'est pas un luxe d'avoir des soins de santé, c'est un droit.
Non, c'est un droit, non, mais vous avez tout à fait.
Oui, mais vous me dites que vous avez raison, mais vous êtes au gouvernement.
Oui, non, mais j'assume la responsabilité, donc effectivement, mais on s'est battu au niveau du Parti Socialiste pour réinvestir dans les soins de santé, faire en sorte qu'on ait une norme de croissance et donc que chaque année, les budgets pour financer les soins de santé et garantir l'accessibilité, parce que vous l'avez dit, c'est un droit. Et chacune et chacun, quel que soit le niveau de revenu, quel que soit l'état de santé, doit avoir accès à la médecine et doit pouvoir se soigner. C'est un bien de première nécessité, c'est pas un luxe, et donc ça doit être garanti. Ça, je suis tout à fait d'accord. On s'est battu, je le disais, pour faire en sorte que chaque année, les budgets des soins de santé augmentent. On doit encore travailler sur la question de l'accessibilité, sur la question du maximum à facturer, donc limiter certains prix pour les patients, notamment les malades chroniques qui vont régulièrement chez le médecin, régulièrement à l'hôpital. Il y a un vrai travail.
Pour les riches et pour les pauvres, voilà, il y a la médecine. On se soigne selon nos revenus. Et en plus, l'offre des grandes villes n'est pas la même que l'offre des plus petites villes. Donc forcément, les délais de rendez-vous sont plus longs dans les petites villes, les délais plus courts dans les grandes villes. Donc je pense qu'il y a vraiment une différence selon ces moyens. Et c'est rajouté la crise actuelle qui fait qu'on doit hiérarchiser ses priorités.
C'est intéressant ce que vous venez de dire aussi sur cet accès à la médecine. Il y a aussi la question de l'accès à un spécialiste.
Bien sûr.
Il y a un problème à ce niveau-là. Et on maintient encore une fois que les gens trouvent que le système de soins de santé est bon, mais c'est pas pour ça qu'on ne peut pas discuter de ce qui doit s'améliorer. Accès à un spécialiste, ça prend du temps, c'est la galère.
Ah, ça prend énormément de temps. Un bête exemple, je dois prendre un rendez-vous pour ma fille chez un dermatologue parce qu'on est à risque au niveau de la peau. Eh bien, j'ai pas rendez-vous avant le mois de mars.
d'activité, des médecins qui se déconventionnent et donc qui rendent plus difficile financièrement l'accès aux soins de base. Nous, nous sommes favorables, comme ça existe d'ailleurs à l'égard des avocats ou des notaires, où la première consultation peut être gratuite, qu'il y ait chaque année le droit à une consultation médicale gratuite. Ça permettrait d'ailleurs d'agir plus en amont, en prévention, pour réduire aussi les risques d'avoir après une intervention maladie très forte. Et le deuxième aspect, c'est évidemment le personnel qui ne doit pas être en pénurie comme on le connaît. C'est un non-sens de continuer d'avoir des numéros INAMI restreints, alors que dans le même temps, on importe, excusez-moi l'expression, des médecins de Roumanie et d'ailleurs, alors qu'on a des gens extrêmement motivés chez nous, à qui on bloque la capacité d'être formés. Donc on marche sur la tête en matière de soins de santé.
C'était normal qu'ils agissent comme ça, parce qu'en fait, on était dans l'urgence, les hôpitaux étaient pleins, on a vu qu'il y avait commencé à y avoir des morts en Italie, nos hôpitaux se sont vite remplis, et sur le coup, il fallait prendre une décision d'urgence, le confinement, les fermetures d'écoles et tout ce qui s'ensuit, en fait, etc. Mais dans un deuxième temps, on n'était plus vraiment dans cette urgence-là. Il y avait de l'eau qui avait déjà coulé sous les ponts et tout s'est décidé par arrêté ministériel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelques membres du gouvernement décident, avec la ministre de la Sécurité intérieure, ce qu'on doit faire.
Et là, vous avez estimé qu'il y avait une vraie atteinte à votre liberté citoyenne, par exemple sur le CST, par exemple sur toute une série
de... Mais ça aurait été au Parlement, ça aurait été différent, parce qu'en fait, c'était des gens qui se sont...
Un débat au Parlement, ça vous gênait moins qu'une décision prise sans vote du
droit. Oui, c'est sûr, oui, parce qu'en fait, ils sont élus par nous. C'est vraiment, la donne est vraiment différente.
Discutez de ça.
Toujours pas de données objectives pour expliquer les choses. Et je pense qu'effectivement, la faille, c'est que, par exemple, les salons de coiffure, on n'a toujours pas su me démontrer que la troisième fois où on les a fermés, il fallait le fermer d'un point de vue scientifique. Et ça, c'est quelque chose à corriger. On peut tout décider, mais il faut faire preuve de transparence et de pédagogie. Et ça a manqué dans une série de cas.
Elle a atteint nos libertés, elle nous a touchés dans nos libertés, certains disent on a été trop loin. Cette atteinte aux libertés, même de la part de gens démocratiquement élus, c'est un souci en démocratie. Vous en pensez quoi?
Je pense que c'est un vrai souci. C'est vrai que la santé publique se construit démocratiquement sur base de l'autonomie des populations, surtout sur base, je dirais, d'un bon sens de tout un chacun qui veut adhérer aux mesures. Et c'est vrai que notre système de santé est basé sur un libéralisme assez...